France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Chose étrange, troublante, dérangeante, même un intellectuel français suscite l'admiration de quelques proches de Donald Trump, au premier rang desquels le vice-président américain J.D. Vance, un historien, anthropologue, théologien, philosophe aussi, mort en 2015, à l'origine du concept de désir mimétique, penseur aussi de la violence, de la tyrannie. On va le comprendre, je veux parler de René Girard. René Girard qui intrigue le pouvoir états-unien. Pourtant, J.D. Vance, Peter Thiel ont-ils bien lu René Girard? L'ont-ils seulement même compris? Ce soir, un invité spécialiste de la pensée girardienne et des études mimétiques pour établir la vérité sur la pensée de René Girard, ses intentions, ses interprétations sincères, l'analyse non instrumentalisée de ses textes, avec un objectif dans cet entretien en ligne de mire, donner envie de lire, éventuellement de le relire. René Girard, bonsoir Benoît Chantre.
Bonsoir Quentin Laffey, merci de votre invitation.
Merci d'être ici, vous êtes éditeur, président de l'association de recherche mimétique que vous avez cofondée avec René Girard, et vous avez signé d'ailleurs la biographie intellectuelle en 2023 de René Girard chez Grasset, et vous faites paraître cet ouvrage passionnant, une anthologie que vous avez composée pour et préfacée chez Grasset une nouvelle fois, intitulée Le désir de tyrannie. Alors tentons de comprendre avec vous qui est René Girard et le fond de sa pensée. Merci d'être ce soir dans Question du soir. Et pour commencer, pourquoi cela vous agace-t-il, Benoît Chantre, que, au fond, on lise aujourd'hui la pensée de René Girard à travers le prisme quasiment unique de ce qu'en disent ces très très hauts responsables américains, le vice-président J.D. Vance et même l'entrepreneur, céréal entrepreneur Peter Thiel? Qu'est-ce qui vous embête dans cette démarche, dans leur démarche intellectuelle?
Simplement qu'elle dure depuis un an, c'est tout. Et puisque nous sommes à l'heure des vœux, je voudrais souhaiter à vous-même d'abord, à vos auditrices et à vos auditeurs, une belle année 2026, et en espérant que cette année 2026, où nous allons quand même panthéoniser Marc Bloch, cette immense figure dont on reparlera peut-être, que cette année qui commence ne recommence pas comme la précédente, c'est-à-dire par cette polémique totalement inutile sur une prétendue récupération de cette grande figure, de ce grand penseur qui était René Girard, par l'extrême droite américaine.
Je vais quand même citer le vice-président américain, voilà ce qu'il écrit dans son autobiographie. Il dit « J'ai commencé à me demander d'où venait sa croyance religieuse, ce qui m'a conduit à René Girard, le philosophe français auprès de qui il avait visiblement étudié à Stanford. » Le vice-président américain parle là de Peter Thiel, et il continue « La pensée de Girard est si riche que tout effort de synthèse ne lui rend pas justice. Sa théorie de la rivalité mimétique, selon laquelle nous avons tendance à entrer en compétition pour les choses que les autres veulent, s'appliquait directement à certaines dépressions que j'ai ressenties à Yale, mais c'est sa théorie du bouc émissaire et ce qu'elle relève du christianisme qui m'a fait reconsidérer ma foi. » Fin de citation. C'est selon vous l'écriture d'un homme qui a véritablement lu René Girard, qui s'y intéresse en profondeur?
Il a été impressionné par ce qu'on lui a dit de René Girard, mais il le cite aussi puisqu'il fait apparemment un retour au christianisme à côté de Saint-Augustin. On pourrait s'inquiéter aussi de la récupération de l'augustinisme par l'extrême droite américaine. Mais on a choisi Girard, c'est une nouvelle manière de nous dire de ne pas lire Girard. Je connais bien cette musique depuis 47 ans, que je le suis passionnément. Alors plus concrètement, ça m'agace puisque vous me posez la question, parce que j'ai publié effectivement une biographie intellectuelle de 1200 pages il y a 2 ans chez Grasset pour bien expliquer qui était René Girard, donc fondée sur des textes inédits de Girard, des correspondances inédites et des témoignages inédits. Et on peut maintenant retracer à peu près objectivement le parcours, le récit de cette œuvre et de cette vie. Et il faut dire tout de suite pour nos auditrices et auditeurs qui ne le connaissent pas encore que Girard est un gaulliste de la première heure, avec son père, radical socialiste, grand historien médiéval de la ville d'Avignon, qui quitte avec un diplôme de l'école des Chartes en poche, une Europe en ruine et une France ravagée par le pétainisme et la collaboration. Et les premiers témoignages que j'ai retrouvés de lui écrivant à ses parents du fin fond de l'Indiana, où il est parti à Bloomington, l'université de Bloomington, enseigner la littérature française en particulier, c'est son angoisse devant ce qu'il appelle le pétainisme américain. Qu'est-ce que le pétainisme américain? Ce sont les premiers linéaments de ce qu'on n'appelle pas encore le maccartisme, mais qui s'appellera comme cela 3 ans plus tard. C'est-à-dire une idéologie chauvine, autoritaire, paranoïaque, traquant des ennemis de l'intérieur sous couvert de résister au communisme.
C'est quelque chose qu'il identifie très en amont?
Très en amont, puisqu'on est en 47. 48, le pétainisme américain, c'est déjà ce qu'il sent dans l'Indiana, où cette Amérique-là est très présente, racialiste, antisémite, fanatiquement anti-française, voyant des espions russes partout. Bref, Girard se demande s'il va rester aux États-Unis. Il a rencontré une femme merveilleuse qu'il épouse, Martha Girard, et qui le déterminera à rester. Et donc il consacre sa thèse de doctorat pour s'installer dans l'université, puisqu'il n'a pas de doctorat, il n'est que chartiste paléographe, à la défaite française, c'est-à-dire à ce traumatisme fondamental qui l'a bouleversé comme il a bouleversé ceux de sa génération, Claude Simon, Emmanuel Lévinas, bien d'autres, et dont il a parlé avec...
Marc Bloch, dont vous avez parlé.
Et oui, et dont il a parlé avec Étienne Bloch, le fils de Marc Bloch, sur le paquebot du De Grasse qui l'amène à Manhattan en 47. Et c'est avec le fils de Marc Bloch que René Girard parle de ce traumatisme profond, et écrit sa thèse sur la défaite française vue par l'opinion américaine. Et c'est un ouvrage qui devra paraître en France un jour, traduit et bien préfacé, et postfacé, qui annonce déjà l'histoire de la diplomatie ou l'histoire des relations internationales, ou l'histoire des mentalités, et qui est une approche de cette défaite par la presse la plus libre de l'époque, et la presse démocrate et républicaine américaine. Et donc c'est déjà chez Girard l'analyse de ce qu'il a vécu lui-même, la décomposition de son pays, et sa recomposition par la seule force du verbe gaullien. Donc Girard est, avec cette thèse qu'il assoit, politiquement et idéologiquement, avec toutes les réserves qu'il doit bien assurer pour ne pas se faire virer, parce que c'est ça l'Amérique de l'époque, un gaulliste de gauche, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire un intellectuel admirant la figure de De Gaulle, mais vigilant sur ce qu'il peut y avoir de monarchique dans l'autocratie gaullienne. Le gaulliste de gauche, c'est absolument pas le même genre de beauté que ce que nous donne à entendre et à voir J.D. Vance, avec une forme de maurracisme à l'américaine, de catholicisme identitaire, que Girard n'aurait pas du tout assumé personnellement.
Et vous dites à juste titre, Benoît Chantre, on explique aujourd'hui la théorie girardienne, la complexité de la théorie girardienne à travers les discours de J.D. Vance et de Peter Thiel, mais ce qui caractérise cette lecture faite par les néoconservateurs américains, par l'extrême droite américaine de ce très très grand penseur français, c'est sans doute qu'elle se traduit par une forme de pessimisme extrêmement ombrageux. Alors que vous expliquez, vous écrivez vous-même que René Girard, au fond, si on le lit correctement, si on le lit bien, il doit nous permettre de tendre vers une forme d'optimisme, malgré tout, malgré les concepts qu'il développe.
Optimisme, je ne dirais pas ça d'un penseur si radicalement apocalyptique, mais je dirais, effectivement, le pessimisme n'est pas le terme qu'il faut employer, c'est un résistant de l'intérieur. Girard commence son parcours américain, il est devenu citoyen américain en 57, dans une haine profonde du maccartisme. Il va détester la guerre du Vietnam et manifester, il sera des grandes manifestations au Pentagone, etc., contre la guerre du Vietnam. Il va détester le triomphalisme américain au moment de l'effondrement du mur de Berlin et partir cette année-là discuter avec des théologiens de la libération au Brésil. Des gens comme Leonardo Boff, Hugo Assmann, Franz Hinkelhammer, des gens qui s'engagent radicalement pour les pauvres. Et Girard déteste le triomphalisme néoconservateur. Et puis quand Girard sort du bureau de vote en 2004, qui va réélire George W. Bush, il me dit au téléphone qu'il a eu le sentiment très profond que quelque chose de très très grave était en train d'arriver dans le monde, en Amérique en particulier, mais dans le monde en général. Il s'est opposé à la guerre en Irak et nous avons écrit ce livre ensemble sur la folie de George W. Bush qui s'appelle Achever Clausewitz. Et donc il est évident que ce moment-là que nous sommes en train de vivre continue sur la même lancée d'un retour d'une Amérique chauvine, d'une Amérique autoritaire. Et Girard a dit cette chose magnifique un jour à Michel Serres. C'est Michel Serres qui me l'a dit peu de temps avant sa mort. « Tu sais, j'aurais vécu assez longtemps ici en Amérique pour connaître l'américanisation de l'Amérique. » C'est cette américanisation de l'Amérique-là que Girard a résisté toute sa vie et que son œuvre témoigne de cette résistance. Et être fidèle à Girard, c'est comprendre que c'est précisément contre cela qu'il se bat.
Et s'est battu aux États-Unis. Ce sera ma dernière question sur ce sujet, et après on plongera dans l'œuvre de Girard et dans cette anthologie que vous avez composée. Quand on vous écoute, on se demande tout de même alors pourquoi ces gens-là, le vice-président des États-Unis, Peter Thiel encore une fois, se réapproprient ces concepts, je les ai cités, de rivalité mémétique, de bouc émissaire. Pourquoi encore une fois établissent-ils ce lien intellectuel avec lui ?
Alors, l'autobiographie un peu précoce de J.D. Vance me permet pas, pour l'instant, je ne l'ai pas lu et j'ai pas étudié absolument comment est-ce qu'il l'a lu et comment.
Mais comment vous le comprenez ?
D'abord, ce qui est baroque, si vous voulez, c'est que comme le disait l'ami de René Girard, Michel Foucault, que Girard a fait venir en 70 et en 72 à Buffalo, à notre ami Sandor Goodhart, qui était étudiant de Girard à l'époque, je partage avec René Girard, moyennant une différence d'objet et de méthode, cette grande question de l'exclusion. Girard était très proche de Foucault. Foucault était très proche de Girard. Ils ont travaillé ensemble. Ce que personne ne dit, mais je le dis précisément dans mon gros livre.
Et en frappant sa biographie.
Oui, parce que c'est un peu tout ça commence effectivement la moutarde me montonner. Comment pensez-vous qu'on puisse bâtir une politique d'exclusion sur un penseur qui a radicalement, plus radicalement encore que Michel Foucault, dénoncé l'exclusion comme à l'origine de tous les ordres culturels. Et donc il n'a pas dit qu'il fallait exclure pour rebâtir une Amérique grande et nouvelle. Il ne peut pas avoir dit ça. Il a dit que toute culture est fondée sur le meurtre et que précisément l'exclusion est à l'origine des ordres politiques.
Allez, plongeons dans cette anthologie que vous avez, je le rappelle, composée pour Grasset, intitulée « Le désir de tyrannie » et commençons avec une voix qui vous émeut particulièrement, la voix même de René Girard. Il s'exprimait en 1990 sur France 3.
La crise mimétique, ce serait des crises de mimétisme généralisé, de rivalité mimétique qui se déchaînerait et qui aboutirait à des phénomènes de bouc émissaire. Les rites seraient la reprise par une communauté fondée, en quelque sorte, par ce phénomène victimaire, la reprise sous une forme atténuée du phénomène qui a sauvé ou fondé la communauté. Les mythes seraient le souvenir de cette même crise, c'est-à-dire serait la représentation que les persécuteurs de la victime se font de ce phénomène.
Beaucoup, beaucoup de concepts girardiens dans cet extrait de Girard. Benoît Chante, commençons par le début. La crise mimétique, de quoi s'agit-il pour Girard ?
Ça n'est pas encore le début. Il faut remonter d'un cran en amont pour arriver au premier geste girardien qui finalement reprend cette question du politique, contrairement à ce que pensent beaucoup de ses commentateurs. C'est un penseur politique profond, en fait, à partir de l'ébranlement des États qu'il a constaté lui-même. Les puissances et les principautés dont parle Saint Paul dans ses épîtres se sont dangereusement fragilisées pendant ces années de guerre et d'occupation. Et Girard a vu dans cette décomposition, recomposition de l'État français, dans cet effondrement de l'État polonais, dans ces dérapages génocidaires abominable dont il a été témoin, a vu la fragilité de cette digue qui fut un temps montée contre les violences intestines des hommes qui était l'État. Il a vu la fragilité de l'État. Donc ça n'est pas avec la philosophie politique, une fois qu'il a digéré cette réflexion sur la défaite française, la décomposition et la recomposition de son propre pays, ce n'est pas la philosophie politique qui va l'aider. Girard va aller beaucoup plus à la racine, c'est-à-dire à ce que Machiavel d'un côté, la Boétie de l'autre, avait commencé à entrevoir avant que cela fût interrompu par la création de l'État, qui, comme le dit magnifiquement Pierre Manant dans son livre sur Montaigne, a humilié la liberté républicaine et allégé la servitude des sociétaires.
Vous parlez de la tyrannie et de la servitude volontaire de la Boétie.
Voilà, l'État est arrivé pour, si vous voulez, trouver une solution, un compromis à une grande question qui était celle du vivre ensemble. Et Machiavel d'un côté, la Boétie de l'autre, ont pensé quelque chose de très profond sous le nom de désir de liberté, son exact contraire, la domination pour la Boétie, pour Machiavel, et la servitude pour la Boétie. Girard vient reprendre cette question du désir de liberté à sa racine même. Et le désir de liberté est tyrannique par essence. Le désir de liberté est un désir de tyrannie. Le désir de liberté
expliquez-nous ce paradoxe.
Le désir de liberté est un désir de tyrannie puisqu'il n'est pas un désir de l'objet, mais un désir de l'obstacle. Et cette découverte fondamentale, Girard l'a faite en enseignant la littérature aux États-Unis. c'est-à-dire les romans de l'origine du roman moderne avec Cervantes jusqu'à Proust, en passant par les romans galants, les romans libertins, Stendhal, Flaubert, Dostoïevski aussi bien sûr. Girard découvre que la littérature n'est pas le royaume des choses vagues, mais de lois extrêmement précises, celle d'un désir dit mimétique, qui est non pas un désir de l'objet, mais un désir de l'obstacle. Je ne désire pas un objet spontanément, comme le dit toute la doxa psychanalyste à l'époque, psychanalytique, pardon, à l'époque. Je ne désire pas spontanément cet objet parce que mon désir est mien et parce que cet objet est celui que je veux acquérir. Je le désire parce qu'un autre le désire ou pourrait déjà le désirer à mes côtés. Cet autre...
Je ne désire que parce que l'autre désire lui-même.
Je ne désire cet objet que parce qu'un autre, un médiateur, un modèle, le désire déjà ou pourrait le désirer. Monsieur de Rênal, dans Le Rouge et le Noir, veut acquérir, si je puis dire, le précepteur Julien Sorel, parce qu'il soupçonne son rival Valenod de vouloir l'embaucher.
Donc ce n'est pas Julien Sorel en lui-même qui l'intéresse, pour lui-même.
Et à terme, si vous voulez, celui qui était modèle et qui a orienté le désir du sujet, voyant le désir de l'autre, ravive le désir de l'objet s'il l'avait perdu, ou le désir de nouveau, encore plus fort s'il le désirait déjà. Et donc ils se retrouvent tous deux comme deux sujets et deux modèles, donc comme deux maîtres et deux esclaves, l'un face à l'autre. La dispute est préférée et l'objet disparaît.
Et pour complexifier la chose, Benoît Chantre, la singularité de ce désir mimétique, c'est ce que vous venez de dessiner, peut se généraliser dans une société, il peut se diffuser, se développer. Qu'est-ce que cela implique ?
C'est la découverte que fait Girard au terme de cette histoire du désir qui a été sa première ambition. Après, très rapidement, il a été rattrapé par les événements, si je puis dire, et il a radicalisé sa recherche. Mais ce que Girard esquisse, c'est une histoire du désir. Donc, nous passons d'un régime où les modèles sont assez transcendants, les modèles culturels sont assez forts pour que les rivalités intestines soient contenues, à un régime où les modèles vont pulluler autour de nous et rendre beaucoup plus complexe le discernement des bons et des mauvais. Ce moment de médiation interne, après un moment de médiation externe, qui était celui des cultures très constitué, c'est le moment démocratique tel que décrit par Tocqueville sous le nom d'égalitarisme démocratique. Dans cette période post-révolutionnaire, les modèles sont là partout, qui pullulent autour de nous, au point qu'il est très difficile, puisque nous ne sommes plus éduqués par des modèles transcendants, de discerner les bons des mauvais. Et c'est cette obsession croissante de l'autre dont l'histoire du roman nous montre les étapes. Et ce passage de la médiation externe à la médiation interne, c'est un resserrement, dit Girard, du désir triangulaire, où l'objet finit par disparaître, ou d'une certaine manière se rapproche en même temps que le modèle, ce qui fait que ce qui est réifié à terme, ça n'est plus l'objet, ce qui est réifié, c'est l'être du modèle. Et ce que le sujet veut acquérir, c'est l'être même de son modèle. Il veut devenir l'autre. Ce désir métaphysique, dit Girard, cette hantise de l'autre, cette obsession de l'autre, c'est l'ultime aboutissement du nihilisme occidental.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous expliquez là, c'est la traduction politique de cette théorie. Elle permet notamment d'expliquer l'avènement, la mise en place d'un régime tyrannique. Comment on passe de ce que vous venez là encore une fois de dessiner, la diffusion, la généralisation du désir mimétique à l'avènement de la tyrannie ?
Très bonne question. Puisque ça, c'était le premier mouvement que Girard décompose, met en scène dans son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, en 61, c'est celui de la décomposition de ces modèles transcendants. C'est les étapes du nihilisme tel que le roman lui permet de les penser. Bon. Mais comment s'opère ce mouvement, le mouvement de recomposition, le mouvement de retour à l'ordre ? Et là, il faut faire un pas en deçà encore, et Girard passe de la littérature romanesque à la littérature tragique grecque. Il se met à passionnément lire Sophocle, c'est là qu'il rencontre tous ses contemporains géniaux, Derrida, Vernon, Foucault, ils sont tous sur cette question-là. Ils sont tous en train de relire l'Oedipe roi de Sophocle. La tyrannie les hante tous, et pour cause, puisque c'est la question politique par excellence. Eh bien, Girard, en relisant l'Oedipe roi de Sophocle, a l'idée tout à fait impressionnante que cette servitude n'est pas aussi volontaire que le pensait la Boétie, que ce désir de servitude n'est pas volontaire, qu'il obéit à un mécanisme irrésistible qui fait que nous abandonnons nos haines réciproques pour n'en plus haïr qu'un seul. Soudain, une partie prise pour le tout, un arbre qui soudain cache la forêt. Et brusquement, un double monstrueux de la communauté provoque contre lui le défoulement des foules qui provoquait le désordre total de la cité ou de l'ordre politique ou du collectif humain. Et brusquement, une partie est prise pour le tout, une victime émissaire, dit Girard, dira-t-il plus tard, et substituée à la communauté en effervescence. Ce lynchage premier, c'est ce qui défoule la violence de la foule et brusquement l'ordre revient. Alors, ce double monstrueux est à la fois destructeur, puisque responsable du désordre, et fondateur, puisque responsable de l'ordre. Il est, dit Girard, le premier dieu.
Voilà comment vous entamez, Benoît Chantre, la préface de cette anthologie dont je rappelle le titre, Le désir de tyrannie. Vous écrivez, c'est la peur d'être tué qui rend le souverain tyrannique. Et c'est notre peur de mourir qui fait que nous nous laissons tyranniser. Les catastrophes qu'on voit poindre trouvent là leur cause principale. Les philosophes politiques, s'ils n'ont cessé de tourner autour de ce paradoxe, n'étaient pas parvenus à cerner son principe unique. Fin de citation. Expliquez-nous la révolution copernicienne que vous décrivez là encore une
fois. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer et je reprends parce que c'est effectivement complexe. Il vient chercher, Girard, ce que Machiavel et la Boétie finalement, même si ça n'a jamais été thématisé comme tel quand on commente Girard, mais c'est pourtant la réalité, ce dont chacun des deux n'avait pensé qu'un versant. Il n'avait pensé qu'un versant du phénomène, le versant du prince du côté de Machiavel et le versant du peuple, du cerf, du côté de la Boétie. Mais en fait, c'est exactement le même mouvement. C'est-à-dire que ce mouvement qui brusquement fait qu'un tiers transcendant apparaît au milieu d'une communauté qui commence à s'indifférencier, c'est que ce tiers transcendant, il est simplement un peu plus identique que tous les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très complexe à penser. C'est pas brusquement un grand méchant qui arrive, il est simplement un peu plus le même que les autres. C'est un double monstrueux, dit Girard. Et cette identité accusée, au deux sens du terme, cette caricature de ce que sont les autres, qui sont tous devenus les mêmes, puisque leurs différences se sont dissoutes dans cette crise mimétique, eh bien, celui qui est un peu plus identique que les autres,
devient plus proche de la moyenne, plus proche de la norme, qui agglomère plus de fragments en commun?
Là, il y a beaucoup de scènes qui permettent de commencer à l'intuitionner. Celle de Diprois en est une. Il est celui qui prend en charge l'accusation. Il est celui qui commence à accuser, puisqu'on dit, on a déjà tordu l'oracle, que la peste qui s'est répandue dans Thèbes est issue d'un crime. Donc, il cherche un criminel. L'oracle ne disait pas du tout ça. C'est Créon qui commence à l'interpréter comme ça, tout de suite, la chasse à l'homme. Et donc, il commence à accuser ses proches. Et l'accusateur devient le grand accusé. Le retournement, brusquement, vous voyez, s'opère. Il incarne l'accusation au deux sens du terme. Celui qui accuse devient l'accusé. L'arroseur devient l'arrosé. Celui-là, celui qui a pris un peu plus, qui a accentué un petit peu plus une identité qu'il partage avec autrui, brusquement provoque cet effet de polarisation unanime.
Et comment alors se débarrasse-t-on du tyran, Benoît Chantre? Ou plutôt, comment le tyran se décompose-t-il lui-même, se périme-t-il pratiquement?
Ce que Girard intuitionne, c'est que derrière ce mécanisme du premier lynchage, de la victime émissaire substituée à une communauté en crise, a dû, pendant des centaines de milliers d'années, se répéter rituellement. Dès qu'une crise revient dans une société, pour éviter le pire, c'est-à-dire sa destruction possible, on va rejouer la scène. Et donc, les rituels sont là pour rejouer cette scène et, à titre cathartique, éviter que la violence intestine ne se répande à nouveau mimétiquement dans la société. Donc, ce travail, vous voyez, de répétition rituelle va produire, par un phénomène évolutif, différentes formes de société. Vous avez des sociétés comme les sociétés amérindiennes où il n'y a pas d'État, mais où on met à mort le tapir de manière exactement sacrificielle. C'est une manière de pratiquer le sacrifice, c'est-à-dire de purger le collectif de ces violences intestines possibles. Et puis vous avez d'autres branches possibles, celle d'une victime qui, avant d'être immolée, va avoir un petit peu de temps avant d'être immolée.
Je vous laisse prendre une gorgée d'eau, Benoît Chantre. Est-ce que les tyrans d'aujourd'hui sont là où on imagine qu'ils sont? Est-ce qu'on pense évidemment à Donald Trump? Est-ce que c'est cela que décrit René Girard?
Alors justement, en s'intéressant à ces cultures centralisées et à cette figure centrale qui est à la fois vénérée et détestée, qui est la première victime, Girard va bien voir que c'est autour de cette figure centrale que vont s'organiser progressivement progressivement les ordres politiques. Et donc ces figures centralisées sont des figures qui étaient, si vous voulez, au départ des figures sacrificielles, et qui, parce qu'elles ont eu le temps entre leur désignation et leur immolation d'exister un peu, d'être adorées comme des prisonniers Tupinamba qui vont être dévorés, mais qui avant seront servis comme des rois, puisqu'elle va avoir le temps, cette victime, avant son immolation, d'installer un pouvoir, non pas de manière consciente, mais de manière concrète, elle va inventer d'une certaine manière la sacralité royale, c'est-à-dire centralisée. C'est-à-dire qu'à terme, elle ne sera même plus assassinée. Elle se débrouillera pour que cette violence interne qui bouillonne dans le groupe social soit déchargée non plus sur elle, mais sur des victimes de substitution, puis de substitution, de substitution. Et ainsi, autour de cette figure centrale de la victime émissaire et sa répétition rituelle, s'est construit un pouvoir central dans certaines évolutions collectives et se sont construits des ordres culturels. Alors, progressivement, la figure du roi est devenue fondamentale, présence très concrète, qui était là pour incarner l'unité du peuple et l'unité de l'ordre politique. Cette figure s'est démocratisée. Cette figure s'est affinée. Il y a eu des contre-pouvoirs, etc. Toute cette histoire des penseurs comme Claude Lefort la raconte très bien dans l'invention démocratique. Et ce lieu qui était plein, ce lieu du pouvoir qui était plein, habité par un roi, lui-même avatar de ces très anciennes victimes émissaires, devenues sacralisées et détentrices du pouvoir, eh bien, ce lieu monarchique va tendre à devenir, dit Claude Lefort très profondément, un lieu vide. C'est-à-dire un lieu où des individus de plus en plus interchangeables vont de manière de plus en plus abstraite, en quelque sorte, occuper ce lieu vide du pouvoir. Et c'est là la faille des régimes étatiques devenus démocratiques, c'est que précisément, il y aura des tentations. Le fascisme, le communisme, aujourd'hui la tyrannie, c'est-à-dire le retour autoritaire dans un pouvoir devenu abstrait d'une figure qui veut faire corps en quelque sorte, qui veut incarner le peuple, et c'est le populisme.
Merci beaucoup Benoît Chante, une vertu au moins à cet échange, nous avoir montré et démontré que la pensée girardienne était bien plus complexe qu'une pensée ou des mots recyclés d'entrepreneurs. Je recommande donc la lecture de votre ouvrage Le désir de tyrannie qui vient de paraître chez Grasset, une anthologie que vous avez préfacée, une anthologie des textes girardiens. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Inès Bouffartig, Sébastien Berti-Bourdon, Rodi Eken, Léa Racine à la réalisation.